tenant in Montreal? Do you have questions about your rights? Your local housing committee can help. To find the housing committee for your neighborhood or for more resources, go to www.rclalq.qc.ca.
What up? This is Ludacris, and you're listening to CKUT.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute. Vous êtes avec Nathalie Dupalma pour la prochaine heure. Notre invitée a passé une grande partie de sa vie à se faire dire « Sois belle et tais-toi ». Et je suis très heureuse qu'Eve Salvaille ait accepté de nous parler de son autobiographie « Sois-toi et t'es belle » publiée aux Éditions de l'Homme. Dans son livre, de manière très lucide, elle nous présente les différents personnages qui se sont greffés à elle au cours du temps. Son personnage le plus connu est sans aucun doute cette magnifique mannequin, avant-gardiste et audacieuse, qui a réussi à faire une carrière internationale avec le crâne rasé et tatoué. Il faut une beauté unique et beaucoup de cran pour oser ce look au début des années 90 et réussir à révolutionner le concept de beauté au sein de l'industrie de la mode. Bonsoir, Eve Salvaille.
Allô?
T'as grandi à Matane, en Gaspésie. T'as eu la chance d'être adoptée par des parents artistes. Adolescente, t'avais un mohawk sur la tête quand tes amis t'ont mis au défi de participer à un concours de mannequin pour un magazine Clin d'œil. Et comme tu adores les défis, t'as laissé pousser tes cheveux, tu t'es inscrite au concours. T'as été sélectionnée parmi plus de 3000 filles et t'as gagné le prix Photogénie à ce concours. Est-ce que de gagner le concours t'a donné envie de faire ce métier-là?
Ah, très bonne question. Je ne sais pas, oui, j'étais curieuse de voir si j'allais aller plus loin. Puis de gagner le prix Photogénie me donnait déjà un contrat d'un an avec une grosse agence à Montréal de mannequins. Donc, c'est une opportunité que je voulais quand même pas manquer. Fait que oui, je dirais que oui.
Et en revenant du concours, une des premières choses que tu as fait, c'est de raser tes cheveux à nouveau. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà l'idée de devenir un jour la première mannequin avec la tête rasée?
Oh non, c'était vraiment beaucoup d'années avant. Là. J'avais 18 ans. Ben, beaucoup d'années, non. C'était 2 ans avant. Fait que c'était 2 ans avant. Non, je voulais juste... Moi, je voulais être rasée. Je trouvais ça plus beau. Je me trouvais plus belle rasée. Mais pas nécessairement. J'avais pas encore pensé avec audace que je pourrais être une mannequin rasée.
Et c'est en 90 que tu demandes à ton agent de te jumeler à une agence de Tokyo, puis c'est là-bas que tu as décidé de passer à l'action, de te raser la tête et de te faire tatouer le dragon. Qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction autour de toi?
Bien, ça a été 2 ans plus tard, en fait. Donc, j'ai été à Tokyo pour ces 2 ans-là, là, en aînant.
OK.
Et puis, après ces 2 ans-là, c'est là que j'ai décidé de faire le grand move de raser et tatouer. Mes agences m'ont laissé tomber carrément. Il y avait personne qui était partant avec ça. Puis moi, j'avais pas demandé à l'avance. Parce que je me suis dit, c'est tellement beau, c'est sûr qu'ils vont dire oui.
Mais c'est grâce à un photographe de Montréal, Carl Lessard, que tu as été remarqué par Jean-Paul Gaultier et que ta carrière de mannequin sur la scène internationale a vraiment débuté à l'âge de 20 ans. Et à partir de ce moment-là, ta carrière est partie en flèche tellement que ça a pris quelques années avant que tu reviennes au Québec. Comment as-tu vécu ces premières années du métier?
J'ai trouvé ça très difficile. Vraiment, là, j'ai trouvé ça très difficile parce que je suis devenue une célébrité overnight. Là. Du jour au lendemain, en une seconde, j'étais rendue une célébrité. Donc, aller au dépanneur, tout le monde connaissait mon nom. Moi, je connaissais pas leur nom, puis je comprenais pas. Tu sais, je venais de Matane. C'était très difficile pour moi d'accepter puis de me sentir à l'aise dans cette situation-là. T'sais, on envie les célébrités, mais c'est pas si facile que ça, j'avoue, de l'être.
Ça a un lot de désavantages aussi d'être connu. Ça a des avantages, évidemment, mais t'as eu de la misère à t'habituer à ça. Ça te faisait vivre
Exactement.
Quoi d'être reconnue?
Ça me faisait vivre. Mais j'avais l'impression d'être toujours, toujours observée. Tout ce que je faisais, qui était très banal comme activité avant, tout d'un coup devenait répertorié. Les gens me regardaient comme si j'étais, je sais pas, moi, un animal exotique au zoo. Là. Les gens me regardaient vraiment de très proche. Puis mes yeux étaient partout où j'allais. Puis j'étais pas habituée à ça. On dirait que les gens voyaient que le personnage, l'espèce d'image qui s'était fait de moi, mais plus lui-même en dessous. Donc, il ne voyait plus la thèse, il voyait juste le personnage.
Ça, tu devenais une image.
Ben, c'est ça. Puis, il me mettait sur un piédestal que je ne trouvais pas que je pitais là. J'étais vraiment mal à l'aise avec tout ça. Puis j'appelais maman beaucoup pour essayer de retrouver mes racines puis me remettre mes pieds par terre parce que j'avais vraiment de la difficulté à dealer avec ça.
Et à l'adolescence, ta grandeur et ta minceur t'ont causé un peu d'intimidation parmi les autres jeunes parce que tu étais grande et mince. Mais est-ce que le mannequinat a réussi à réparer ces blessures-là? Est-ce que ça a réussi à te nourrir, toi, en tant que femme artiste?
Oui, ça a changé ma perception de moi-même. Autant je fitais pas. Il y a eu un petit moment où est-ce que c'était un peu... Encore là, ça faisait partie du truc qui était difficile à comprendre puis à accepter pour moi. C'était de passer du vilain petit canard à une personne qui est considérée comme une des plus belles femmes au monde. Puis toutes les mannequins avec qui je travaillais, les Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, toutes, Claudia Schiffer, avaient toutes le même problème. Ils étaient très laides à l'école, trop grandes, maladroites, un peu tout croche, trop maigre, pas de faim. Puis là, tout d'un coup, ils étaient considérés comme les plus belles femmes au monde. C'est un ajustement. C'est quand on est habitué d'essayer de se cacher, surtout mon corps, j'essayais souvent de le cacher. Je m'habillais toujours avec des vêtements trop grands. Puis là, tout d'un coup, c'est ça, c'était... J'ai changé overnight, mais ma perception, ça a pris 2-3 minutes avant de réajuster.
Oui, c'est un gros contraste. Tu dis que tu te sens plus en sécurité sous l'eau que sur la terre, et dans tes moments les plus stressants, c'est de t'imaginer sous l'eau qui te calmait le plus. Ça vient d'où, ce sentiment de sécurité quand t'es dans l'eau?
Ça vient d'aller faire de la plongée avec mon père.
Okay.
Tous les gens qui ont déjà fait de la plongée sous-marine vont comprendre exactement de quoi je parle. Là. Il y a quelque chose de très, très magique en dessous de l'eau, puis il y a quelque chose de très apaisant, puis pour avoir une bonne sortie en plongée, ben, il faut que tout devienne calme, les mouvements deviennent calmes, la respiration. C'est vraiment un truc de contrôle. Puis il n'y a pas d'autres distractions externes. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, on est habitué de toujours avoir un truc qui vide sa table. Puis c'est constamment, constamment. C'est long, on n'a pas ça, là.
On va aller justement en musique avec la chanson Dans un océan d'Ariane Moffatt.
I'm not afraid to die.
Nous sommes toujours avec Eve Salva et nous parlons de son livre « Sois-toi et t'es belle » paru aux éditions de l'Homme au mois d'octobre 2020. Étrangement, dans le milieu de la mode, c'était mieux vu de consommer de la drogue et de l'alcool. D'ailleurs, tu dis que tu avais une drogue de choix pour chaque défilé. Qu'est-ce que chaque drogue t'apportait dans ces différents contextes?
Je pense que ça gelait, une espèce de tempête qu'il y avait en dedans de moi. Ça faisait en sorte que je n'étais pas là. Puis je pense que ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à être capable de passer à travers toutes les montagnes russes d'émotions que ce métier-là apporte. Puis de tomber dans un espèce de je m'en foutus, là, ben, j'étais pas là.
Mais il me semble que la drogue peut aussi amplifier le stress. C'est-tu difficile pour toi de garder contrôle? Est-ce que ça t'est arrivé de dire non, je sors pas dans l'arrière du rideau ou je vais pas sur la passerelle?
Ben, ça dépend quelle drogue. Ça dépend aussi combien t'en prends. Je veux dire, t'arrives bas fond, t'es dépendant à une drogue quand t'arrives à la fin avant d'arriver au bas fond complètement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de paranoïa, de trucs comme ça qui embarquent. Mais avant ça, quand on a encore le contrôle, juste le fun. J'ai eu du fun à prendre des drogues. Puis un jour, c'est devenu plus le fun pantoute, là, mais non, ça m'a jamais vraiment empêché. J'étais très contrôlée aussi, là. J'en prenais pas des quantités industrielles, justement, pour être capable de me tenir debout, puis de continuer à parler correctement, puis à répondre aux questions dans des entrevues correctement.
Est-ce que tu considères que tu étais plus rebelle que les autres mannequins avec qui tu travaillais?
Oui. Oui, j'étais une petite punk, même que j'intimidais les autres mannequins avec qui je travaillais.
Par ton look?
Oui, par mon look. Parce que dans ce temps-là, on se rappelle que dans les années 90, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a des tatouages. Ma maman a un tatouage. Mon neveu a un tatouage. C'est tout. Les jeunes ont des tatouages. C'est très, très commun aujourd'hui. Dans ce temps-là, il y en avait pas. Puis de trouver quelqu'un pour te faire un tatouage, c'était pas comme aujourd'hui. C'était très difficile à trouver. Vraiment peu commun, là, d'avoir des tatouages. Donc, déjà, juste ça, puis en plus, j'étais la première rasée, puis je regarde ça maintenant, puis c'est comme presque banal. Mais même à ça, j'ai été au petit café d'en bas hier, puis il y avait des petits jeunes dehors qui avaient peut-être 9 ans, 10 ans, 11 ans, puis c'était retourné tout de suite en voyant que j'avais le crâne rasé avec un tatou sur la tête. Ça impressionne encore aujourd'hui, imagine, en 1992.
Tu venais juste de le faire refaire?
Ben oui.
My God.
C'était fatal, puis je me dis, mais pourquoi? Puis je suis contente.
Ah oui, puis il est vraiment
mais, ouais, merci, ça a fait vraiment mal, là, la deuxième fois aussi. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça fasse pas mal. Puis tatoueur, il a dit, ben, on se revoit dans 30 ans, parce que ça faisait 30 ans que je l'avais pas fait.
OK.
Puis, tu sais, je vais avoir 80.
Aïe, aïe, aïe. Et combien de temps ça a duré en tout, ta carrière de mannequin?
À peu près 7 ans, 7 ans et demi pour le pic, là. Peut-être plus long que ça, là, mais c'est dans ces eaux-là, à peu près.
Et est-ce que c'est toi qui as décidé de mettre fin à cette carrière-là?
En fait, c'est une carrière très courte, puis c'est eux qui te jettent. Puis littéralement, du jour au lendemain, on fait complètement oublier, remplacer, jeter. Puis c'est correct, là, c'est juste, ça fait partie de la game. Mais c'est ça, je voulais pas ça. Mon ego aurait probablement pas été capable de le prendre, donc je me suis dit, je vais terminer ma carrière juste quand je vois que la fin s'en vient. Je vais la terminer avant de me faire jeter.
OK. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme émotion d'arrêter de faire ce métier-là?
Ben, c'était difficile parce que c'est tout ce que je connaissais. Puis, je le compare souvent à une carrière d'athlète. Les athlètes sont comme ça. Ils s'entraînent du matin au soir. Ils mangent d'une certaine manière. Mais c'est vraiment comme ils n'ont aucune vie. Ils n'écoutent pas la télé. Ils voyagent pour des compétitions. Ils s'entraînent. Ils font attention à tout. Combien d'hommes, combien de filles. À la fin de la carrière, ben, ils ont passé toutes ces années-là à pas faire ce que les gens normaux ont fait, qui ont été à l'école, qui ont eu de l'expérience de travail, de l'expérience de vie, qui ont peut-être eu même des enfants. Et moi, j'avais rien de ça. Aucune connaissance. Tout ce que je faisais, c'est des drogues. Puis je faisais des shows puis je voyageais, donc j'ai beaucoup d'expérience de vie, mais tu sais, je peux pas aller dire, ah ben j'aimerais ça faire électricienne dans la vie. Il faut que je recommence à il y a 20 ans.
Tu dessines depuis toujours. En 2015, tu as rassemblé tes œuvres pour en faire une exposition dans une galerie d'art de Montréal qui s'intitulait « Dans mes têtes ». D'ailleurs, tu nous partages quelques-uns de tes dessins dans ton livre et c'est en l'écrivant que tu t'es rendu compte qu'ils représentaient bien les personnages que tu décris dans ton ouvrage. Ça faisait-tu longtemps que tu les avais regardés?
Oui. Ça faisait longtemps que je les avais regardés. Ouais, c'était le fun parce que c'était comme un peu des journaux intimes. Je pense qu'il y en a 12 en tout. Des grands cahiers de plusieurs, 100 pages certains. Ils sont remplis, ces 12 cahiers-là. Donc, de passer à travers ça, c'est sûr que quand j'ai fait le cinquième élément, ben je dessinais dans les coulisses pendant que je vivais cette expérience-là. Donc, ça raconte vraiment l'histoire juste en dessin de ce qui s'est passé dans ma vie durant ces années-là. Fait que je trouvais ça vraiment un beau voyage de regarder là-dedans. Surtout pour moi, parce que je les comprends. sais, pour quelqu'un d'autre, peut-être que non, mais moi, ils ont toutes, je les cache, c'est comme si j'avais écrit, là.
Ah ben, ils sont le fun à regarder pour les autres aussi, là, je peux te le confirmer.
Ah oui? OK, oui. C'est le fun, c'est bon à savoir.
Est-ce que tu dessines encore?
Ben, pas vraiment. Là, j'écris maintenant, fait que j'ai eu un peu la piqûre pour ça, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun d'écrire, mais c'est ça, je dessine pas très souvent, là, je viens de faire un dessin pour une... Je pense que c'est une espèce d'encan levé de fond qui vient en aide aux gens qui ont la difficulté avec la dépression, les trucs comme ça, là, les problèmes mentaux. Mais j'étais tellement énervée qu'on me demande de faire un petit dessin. Ils m'ont demandé ça pour le mois de mai, puis ça a pris une demi-journée, puis le dessin était fait. C'est tellement... J'adore dessiner. Je dessine depuis que je suis très, très jeune, puis j'aime vraiment ça, puis je me sens à l'aise. Là, j'ai pas de doute sur mes capacités quand je dessine.
Comme tu disais tantôt, tu as travaillé entouré des plus belles femmes, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer et plusieurs autres. Et c'est à Tokyo que tu as eu une relation gay avec une autre mannequin. Est-ce que tu savais avant cette relation-là que tu avais une attirance pour les filles?
Je pense pas, non. Maintenant, je regarde en arrière puis je le vois que depuis un très jeune âge, j'avais le kick sur la gardienne. j'avais des kicks. Vraiment, je le vois là, que c'est obvious que j'étais. Ça me saute aux yeux maintenant, mais à ce moment-là, j'avais aucune espèce d'idée. Non. Ben, avant la première relation avec une femme, j'avais aucune idée que j'aimais les femmes.
Puis, tu as fait ton coming out à 40 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
Ben, j'ai attendu parce que j'étais pas à l'aise avec ça. J'avais honte. Je trouvais que j'étais déjà marginale. J'étais déjà une personne qui était pas vraiment aimée à l'école, point de vue physique, ni, j'étais pas populaire. Il me semble que j'avais des affaires qui étaient comme toutes différentes des autres kids autour de moi. Puis là, en plus, rajoute gay. Fait que je trouvais que c'était un défaut. Je pensais que c'était quelque chose que je pouvais remédier. Donc, j'ai sorti avec des gars pendant longtemps en essayant de tomber en amour avec des garçons. Puis je comprenais donc pas. Je me suis dit, bon, ben, c'est lui, c'est pas le bon. Je comprenais pas. Puis j'avais très honte. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à m'accepter dans tout ça. Puis à voir que c'est une belle chose. À 40 ans, quand j'ai fait mon premier coming out, c'est aussi parce que on me dit que je pouvais venir en aide. Parce qu'on me dit qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même espèce de honte de ça. Puis il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans des familles qui acceptaient pas le fait qu'eux, ils étaient gays. Donc, ils faisaient leur coming out à l'âge de 12-13 ans à leurs parents. Puis les parents les foutaient l'enfant dehors. Ou c'est renié à l'enfant. Ou... Fait que je me suis dit, ben, peut-être qu'en tant que personnalité connue, je pourrais peut-être dire, bon, ben, moi, je l'ai fait.
Tu deviens un peu un modèle.
Ben, c'est ça, un peu comme Elton John l'a fait.
Mais je pense que c'est un processus que beaucoup de gays et lesbiennes vivent là, quand ils se rendent compte qu'ils sont homosexuels. Ben oui, d'avoir honte. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gays et lesbiennes qui vivent le processus que tu as vécu. Peut-être qu'ils font leur coming out un peu plus jeune. Ben oui, on a toute l'impression de profiter dans la société là, quand on se rend compte qu'on est gay, j'ai l'impression.
Moi, c'est ça. Moi, je l'ai annoncé à mes parents à l'âge de 21 ans. Puis, c'est ça, je l'ai annoncé à eux, mais j'ai pas eu le courage de l'annoncer à mes amis. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des amis qui étaient gays ou que j'avais rencontrés dans... Tu comprends? Des amis que je savais qui acceptaient les gays. C'était des nouveaux amis, puis ils me connaissaient en tant que gay. Mais c'était un très petit groupe, puis c'était... C'est ça. J'avais vraiment honte de ça.
Mais est-ce que tu devais le cacher dans le milieu de la mode ou tes collègues, ils savaient?
Non, c'était in à ce moment-là. Il y avait Britney Spears qui avait frenché Madonna au bout d'un runway pour un fashion show. C'était vraiment cool d'être lesbienne. Puis ça non plus, je n'étais pas là-dedans parce que moi, c'était pas un show. Je savais très bien que Britney puis Madonna sont pas lesbiennes. Non,
non c'est ça.
Fait qu'eux autres, ils faisaient ça pour le show. Puis c'était bien correct, là, sauf que c'était juste comme fashionable. Tu vois ça, je voyais ça comme presque insultant. Parce que moi, je vivais tellement de peur puis de trucs difficiles à travers le fait que j'étais gay. Puis c'était comme si eux autres, ils tournaient ça en joke. Parce qu'eux autres sont pas vraiment gays. Puis ils font ça pour le show. Puis c'est comme, ils savaient pas la souffrance qu'il y en a sous de ça d'être gay. Puis de pas être capable de l'avouer aux gens autour de nous, tu sais.
Ouais. Le public, il a quel âge?
C'est ça, c'est le public et les journalistes qui l'ont su à 40 ans.
Okay.
De toute façon, d'un autre côté, j'en avais parlé à mes parents, puis maman avait apporté un très bon point. Elle avait dit, tu sais, moi, quand je me présente, je dis pas Lise hétérosexuelle. Fait que pourquoi, toi, il faudrait que tu justifies ce que tu fais en toute intimité dans ta chambre à coucher, tu sais?
C'est ça. Oui, effectivement. Mais c'est sûr que quand tu le dis, en même temps, comme on disait tantôt, tu deviens un peu un modèle pour les plus jeunes qui ont peut-être de la difficulté avec ça. Pendant longtemps, on n'a pas vraiment eu de modèle.
Mais... Effectivement. Moi, j'ai su ça sans enlever mon côté de honte, parce que là, je l'ai vu comme quelque chose de positif, qui pourrait avoir un impact positif pour quelqu'un. Donc, c'est devenu comme quelque chose, comme tranquillement pas vite, dont j'étais fière, parce que je me suis dit, bon, ben là, j'influence. Ça peut être beau.
Puis c'est sûr que quand on s'accepte, c'est plus facile aussi de le dire aux gens autour de nous, puis de rentrer ça dans une conversation. Est-ce que tu crois que c'était plus accepté d'être un homme gay plutôt qu'une femme gay dans le milieu de la mode?
Ben, même les hommes, à ce moment-là, c'était pas très accepté non plus. C'est pas quelque chose qui se parlait énormément.
Est-ce que tu te souviens, en 93, quand Kelly Lang et Cindy Crawford ont fait la première page du magazine Vanity Fair?
Oh mon Dieu, oui!
Est-ce que tu travaillais déjà avec elle? Puis ça a été quoi ta réaction?
Ben, c'était cool. C'était ça, c'était à mode d'être gay, donc c'était vraiment des choses qui étaient ce qu'on disait fashionable.
Oui, c'est ça. On va aller en musique avec la chanson Modern Love de David Bowie. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette chanson-là?
Ah, j'adore cette chanson-là. Cette chanson-là me ramène immédiatement à l'âge de 12 ans, heureuse. Ça me rend heureuse aussi.
On l'écoute.
I catch a fever, boy, put things
De retour avec Eve Salvaille. Dans ton livre, tu parles qu'en 97, tu as beaucoup été affectée par l'annonce du meurtre de Versace alors que vous l'attendiez à l'hôtel, qui était censé être avec vous pour les essayages de son défilé. En plus, tu lui avais préparé un petit mot en italien que tu n'as jamais pu lui remettre. Ça a été quoi ta réaction et celle des autres mannequins qui étaient sur place?
On était tous sous choc. C'était vraiment un grand, grand choc. C'est ce genre de trucs qui arrivent dans les films, qui arrivent aux autres, mais qui arrivent pas proche de nous comme ça. Mmh. Surtout Versace, Gianni, c'était vraiment une personne hyper douce, gentille. Il n'avait que des qualités. Je l'ai vraiment, là, une personne extraordinaire. D'accord, mais mon Dieu, c'était tellement violent, vulgaire. Ouf! Fait que je me rappelle qu'on s'était même pas regardé, on voyait sans se voir, on pleurait en s'en allant au lobby, puis on se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va où? On fait quoi? Tu sais, c'est ce qui se passe, c'est... En tout cas.
Ouais, c'est un gros choc. Et qu'est-ce que tu voulais lui dire à Versace?
Ah, ben, je faisais des niaiseries sur ses shows toutes les fois. Donc, je voulais m'excuser avec un grand respect devant cet homme. Je voulais seulement m'excuser puis aussi le remercier pour tout ce qu'il m'a donné parce qu'il m'a pris quand même souvent pour ses shows, ses campagnes. C'est ça.
Tu parles aussi de ta relation amoureuse avec Pina dans les années 90, qui a aussi été victime d'un horrible meurtre en 2009. Est-ce que tu étais à Montréal quand c'est arrivé? Comment as-tu appris cette nouvelle?
Non, j'étais encore à New York à ce moment-là, quand c'est arrivé en 2009. Puis c'est une de nos amies en commun qui habite New York qui m'a appelée puis qui m'a demandé si je savais ce qui était arrivé avec Pina. Puis moi, j'étais sûre que c'était un overdose, donc j'ai dit non, mais elle ne m'a pas donné de détails au téléphone.
Okay.
Je parle de ma meilleure amie Lynn, fait que j'ai appelé Lynn, puis elle m'a tout raconté. Là. Elle était avec elle ce soir-là, le dernier soir que Pina était en vie.
Ouais, je m'en souviens très bien aussi, parce que c'était pendant la fierté gay à Montréal.
Exact.
Ces disparitions soudaines et tragiques ont eu quel impact dans ta vie?
Ah, mon Dieu! Pour Pina... Ben, j'étais plus en contact avec elle, ça faisait un bon 10 ans, donc c'est pas que c'était moins pire, mais c'est dans un sens, c'est peut-être que ça l'était en fait moins pire un peu à cause de ça, mais j'ai eu de la difficulté à dormir, j'ai eu comme un film d'horreur un peu, parce que ce qui est arrivé, c'était assez horrible. Puis j'étais en cours, une fois qu'ils ont trouvé le meurtrier deux ou trois ans plus tard, j'ai été en cours pour les préliminaires pour voir si ça allait être meurtre au premier degré ou au deuxième degré.
OK.
Fait que j'ai vu cet homme-là, puis j'écoutais déjà beaucoup d'émissions sur qui s'appelle Forensic Files, sur des trucs de meurtre comme ça, mais tu sais, dans ma tête, à moi, c'était juste une émission.
Ouais,
c'est pas réel. Puis là, quand tu nommais tous les trucs sur la scène de meurtre, comment ils ont trouvé cet homme-là, puis qu'est-ce qu'il a laissé, puis tout ça, puis... Je comprenais ce qu'il disait, c'était des termes très techniques.
T'as arrêté la drogue en 96 et t'as pris la décision de cesser de boire il y a 4 ans. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissent à se défaire de leur dépendance. Bravo.
Merci.
Dis-moi, quand on a été autant d'années à se geler et à prendre l'alcool, qu'est-ce que la sobriété nous apporte?
La première fois que j'ai arrêté, c'était pas de la sobriété, c'était j'ai arrêté avec les dents serrées puis les jointures blanches là en 96. Puis je connaissais pas du tout le programme des 12 étapes à ce moment-là, donc c'était de peine et de misère. Puis j'étais pas heureuse là-dedans. Ça m'a fait du bien, mais la deuxième fois en rentrant dans les salles avec les programmes des 12 étapes, je vais dire que ça a changé ma vie pour le mieux. C'est incroyable. Je peux même pas te décrire 0,01% du bonheur que j'ai de tout ce qui a changé dans ma vie. C'est incroyable.
Ça t'a pris combien de temps à peu près pour voir les bienfaits depuis consommer?
24 heures.
Et je trouve que les gens qui réussissent à sortir de ça ont une grande force. Ils dégagent quelque chose de vraiment profond.
Merci. Mm. Je pense que c'est la force de nous. Puis c'est très dans l'humilité. Ça nous ramène dans l'humilité.
Mm.
Parce que quand tu t'aperçois que toutes les batailles que tu sais, je veux dire, j'ai fait le tour du monde 1000 fois, là, j'en ai fait des gros shows, des grosses campagnes, je suis un entrepreneur, je suis une artiste multi, j'en ai fait des choses dans ma vie, mais puis j'ai toujours pas mal réussi à soit gagner ou à me rendre jusqu'au bout, même si ça marchait pas, puis avoir le beau là-dedans, tout ça. Mais la bouteille, je gagne jamais. Je gagne jamais contre elle. Hey, une bouteille, c'est pas gros, puis c'est niaiseux, puis c'est... ça cogne dans l'ego, ça.
Ouais. À partir de 2005, tu deviens DJ à New York sous le nom de DJ Evalicious. Et tes premiers sets de DJ étaient dans des bars très populaires, et ça s'est pas super bien passé au début. Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui?
J'ai eu la piqûre parce que quand on commence un nouvel emploi, dans n'importe quel domaine, c'est toujours la même chose. Au début, on se sent un petit peu nono, puis on fait des erreurs qu'un an plus tard, on est comme aïe, je peux pas croire que je faisais ces erreurs-là. Mmh. Mais c'est normal parce qu'on commence quelque chose de complètement nouveau qu'on connaît pas nécessairement.
On apprend.
Mais j'ai eu la piqûre. J'ai vraiment aimé la sensation que j'avais, puis je savais que si j'étais capable de devenir bonne à ça, que j'allais aimer ça.
Puis est-ce que tu considères que tu es arrivée où tu voulais dans cette carrière-là?
Oui.
Tu as fait vraiment des gros shows aussi.
Oui, c'est ça. J'ai même probablement dépassé mes attentes là-dessus. Là. Ça a vraiment bien été. Je pensais pas que j'allais être capable de faire ça. Fait que je suis fière de moi. J'ai travaillé fort aussi. Là. C'est pas venu tout seul. Là.
C'est ça. Puis en plus de ta carrière de DJ, est-ce que tu envisages de continuer à faire des apparitions comme mannequin de temps en temps? Il me semble que je t'ai entendu dire que les mannequins qui travaillaient avec toi reviennent en ce moment.
Oui. Il y a eu, c'est sûr, tout ça avant la pandémie, mais il y a eu un gros comeback des filles de ma génération, là, des top models. Puis j'y ai pensé, mais non.
Non?
Ben, il y a quelque chose que j'ai réalisé. J'ai fait une couple de shows pour Jean-Paul, puis une couple de trucs comme ça depuis, puis parce que c'est mon beau Jean-Paul, mais j'ai réalisé que ça fait quand même 15 ans là, que je suis DJ, 16 ans. Tout est à l'heure, puis dans tous les autres métiers, c'est comme ça aussi, sauf le mannequinat. Le mannequinat, tout le monde est en retard d'à peu près 9 heures. Puis je niaise même pas, là, j'exagère pas du tout. C'est un métier qui est très aléatoire, t'as pas de syndicat qui te protège. C'est vraiment comme ça pourrait finir du jour au lendemain, demain ou après-demain. Tu sais pas pourquoi, sans raison. Fait que je me suis dit non, je suis rendue ailleurs. Je l'ai faite de toute façon, ma carrière de mannequin, là. Je peux pas dire que je l'ai pas faite puis que j'ai pas accompli
T'es allée au
des
bout
choses. De... Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai eu ma médaille d'or puis je laisse place sur le podium à d'autres jeunes mannequins qui commencent.
Oui. Évidemment, avec la pandémie, tout s'est arrêté. Mais en temps normal, tu fais aussi des conférences sur la perception de l'échec. Est-ce que ce sont des conférences qui sont ouvertes au grand public et pourquoi avoir choisi ce sujet-là alors que tout semble te réussir?
Ben justement, parce que tout semble facile. On semble invincible, hein? Mais tu ne vois pas en arrière de chacun de mes succès. Tu ne vois pas tous les struggles, puis les moments difficiles, puis les portes fermées en pleine face, puis les noms, puis...
C'est ça.
Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que des gens comme moi qui peuvent être perçus comme invincibles puis qui ont tout sur un plateau d'argent, que nous aussi, on a de la difficulté. Nous aussi, on a peur des fois. Nous autres aussi, on est intimidés par des choses.
Puis qu'il y a beaucoup de travail en arrière de vos succès aussi.
Oui, puis c'est le fun de voir ça parce que moi, ça m'a aidé de savoir que je parlais de Elton John qui était à mon premier... J'avais 11 jours de sobriété au moment où est-ce que j'ai rencontré Elton John puis je travaillais avec lui. Puis dans ma tête, à moi, il était invincible. Lui-là, là, il a tout... il est beau, il est fin, il est bon, il est tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est dans le mouvement, ça fait 30 ans.
Puis quand tu regardes le film sur sa vie, il l'a pas eu facile non plus.
Ben non, c'est ça, exactement. Fait que ça prouve que dans ma tête, à moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, si Elton John peut le faire, moi aussi je peux le faire. Je me dis, bon ben si moi je pense comme ça, il doit y avoir du monde qui doit penser, si El Salvador est capable de le faire, moi aussi je suis capable de le faire. Je veux pas être un modèle, mais peut-être inspirer quelqu'un ou donner une autre perception. Tu sais, des fois on regarde la montagne en avant de nous, puis elles semblent très, très grosses, mais on ne regarde jamais les montagnes qu'on a montées, qui sont derrière nous. On a monté et redescendu aussi, parce que c'est pas toujours facile de redescendre.
Mais ça montre que c'est faisable, c'est ça qui est beau, puis c'est, comme tu dis, ça peut inspirer d'autres. Tu as habité dans plusieurs grandes villes, Tokyo, Paris, Milan, 23 ans à New York. J'ai vu que tu animais à la télévision en italien. Ça m'a vraiment impressionnée. C'est arrivé comment, ça, dans ta vie?
Grazie, amore. Ben, j'étais en Italie, puis je sais pas, je pense que c'est MTV qui m'a approché pour voir si je voulais faire une émission sur la mode. C'est MTV Italia, fait que c'était en italien. Mm-hmm. Puis le réalisateur, il est reconnu, il n'aime pas les yeux du téléprompteur. Okay. Donc, il ne voulait pas de téléprompteur. Fait qu'il fallait que j'apprenne 17 pages de script, de scénario, comme, en italien, le soir avant, puis le lendemain matin. Je recevais les scripts peut-être à 2h du matin, puis à l'hôtel, ou par fax à l'hôtel, puis là, j'apprenais tout ça, puis le lendemain à 8h, j'étais en studio, puis j'enregistrais tout ça.
Oh my God! Est-ce que tu parlais déjà l'italien couramment?
Non,
ou... non?
Ben un petit peu, oui, mais j'étais pas. Il y avait beaucoup de mots que je comprenais pas dans ce que je disais. Puis en plus, c'était beaucoup de choses à mémoriser. Puis quand tu comprends pas tous les mots, ben quelle intonation tu donnes à ce mot-là?
Aïe aïe aïe. Mais t'as fait ça combien de temps?
Ça a pas duré super longtemps, là. Peut-être 6-7 mois.
OK. Toi, tu recevais des gens de la mode?
Moi, ça s'appelait MTV Zipper, puis c'était une émission sur la mode un peu comme comparable à Perfecto avec Stéphane Leduc.
Ah, OK.
C'est un peu comme ça, on faisait des entrevues avec Tom Ford, puis tout ça, puis on faisait, il y avait une partie qui était plus narration, on avait tout le temps un sujet spécifique. Cette semaine, on parle de mes mini-jupes, mettons.
OK. T'as joué dans quelques films aussi, dont Celebrity de Woody Allen. T'as rencontré Luc Besson, qui a réalisé ton film préféré, Le Grand Bleu. Et il t'a offert le premier rôle du film Le Cinquième Élément. Tu l'as rencontré et tu t'es volontairement retiré de ce projet de film qui aurait pu démarrer quand même une grande carrière en cinéma pour toi. Tu dis que t'as choisi l'intégrité et finalement, tu as joué un petit rôle dans ce film-là quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, c'était difficile pour moi ce moment-là parce que j'essayais d'arrêter les drogues, j'essayais de faire en sorte que je savais pas qu'on pouvait pas contrôler quelqu'un pour arrêter les drogues. Je savais pas que c'était une décision qui devait venir d'elle. Mais j'essayais de faire en sorte que Pina arrête les drogues aussi. Puis en tout cas, on s'entendait plus bien. C'était la fin de la relation. C'était tout allait mal. Mmh. C'est quand tout va mal. Fait que pour plusieurs raisons, j'ai décidé de pas faire partie de ce film-là.
Okay.
En fait, de pas prendre le rôle principal.
Mais ton petit rôle est vraiment cool aussi, là, même si ça a été difficile à faire.
Cool.
Parce que tu dis que le gun était vraiment pesant.
Oui, c'était drôle. Là. Il voulait que je fasse quelque chose que mes muscles... mes muscles criaient non.
Hmm. Woody Allen et Luc Besson ont tous les deux été éclaboussés par le mouvement hashtag MeToo. Comment tu te sens par rapport à ça?
Je suis contente que le mouvement MeToo existe. Je suis contente que ces femmes-là aient le courage de le dire parce que c'est très difficile avec des grands noms comme ça qui ont tellement de pouvoir qu'ils achètent la paix. Puis regarde, là, Luc Besson s'en est sorti, Éric Salvaille s'en est sorti... Hmm. On pourrait continuer comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez controversé, puis j'ai une opinion un peu trop forte pour commencer à parler de ça, mais moi, je suis du bord du MeToo, là. c'est génial que les femmes ont finalement une voix, puis qu'ils peuvent finalement, sans avoir trop peur, pouvoir dire qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'on est encore au point où est-ce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir mettre ces gens-là en prison.
C'est ça.
Puis il n'y a pas de conséquences. Ils sont intouchables, ce monde-là. C'est comme...
T'as déjà rêvé d'avoir la capacité de respirer dans l'eau?
Oui.
On va y aller avec Daniel Bélanger, sa chanson « Respirer dans l'eau ».
Reste moi qui volais. finirait dans l'eau. Moi qui étais moi, étais moi. Moi qui souris, qui marche enfin, la tête dans mes épaules. Libre dans un corps. Moi qui jaillis des souterrains de 100 siècles.
Nous sommes toujours avec Eve Salvaille et pour revenir à la musique, c'est après une prestation musicale au gala de la Griffe d'Or que Daniel Bélanger t'a remarqué et qu'il t'a contacté dans le but d'écrire une chanson pour toi. Et c'est le succès Rêve est mieux, rien de moins, qui est sorti de votre rencontre, que tu devais enregistrer en studio, mais ça a été un rendez-vous manqué. Mais est-ce que ça fait encore partie de tes projets de chanter?
Non, je veux pas. Ça, c'est quelque chose. Ah, je dis non. Je disais non pour écrire un livre, puis regarde où je suis rendue. Faut jamais dire non dans la vie. On sait jamais où est-ce qu'on va se retrouver. Pour ce qui est de rêver mieux, je pense que c'est un de mes seuls regrets du passé, c'est d'avoir pas chanté cette chanson-là avec lui parce que je pense qu'on aurait eu bien du fun puis la chanson est très belle, effectivement. Mais je suis contente pour lui que ça a été un très, très beau succès puis écoute, par la chanson qu'il a écrit là, non?
Ah ouais, c'est un succès, mais est-ce que tu l'as chanté juste pour toi?
T'as... Non, c'est une petite mot d'une bonne question. J'ai jamais essayé. Non, je sais même pas si je serais capable de la chanter, c'est vrai.
Parce que tu chantes super bien.
Merci. C'est juste que je suis intimidée par être chanteuse, ça m'intimide beaucoup. Puis comme je suis intimidée, ben j'ai de la misère à... C'est drôle, hein? Moi qui est si à l'aise sur les stages puis tout ça, chanter, là, ça me rend super mal à l'aise. Ça me rend hyper anxieuse, mal à l'aise, intimidée. Je me sens vraiment pas dans mon élément. Pourtant... toute autre chose, il n'y a pas de problème, mais ça...
C'est comme si tu te mettais à nu un peu.
Oui. C'est exactement ça. J'ai l'impression de me mettre à nu.
Puis depuis 2018, tu es aussi designer de mode. Tu as créé des hoodies avec ton tatou sur le capuchon qui sont faits sur mesure. Je les trouve vraiment très beaux. Comment ce projet-là a vu le jour? C'est un projet que tu as dû bûcher aussi pour mettre au monde?
Ben, il y a quelques années, avant de rencontrer Pascal Labelle, on avait fait une collection, ma belle-sœur et moi, ma belle-sœur et amie. Ça fait longtemps qu'on est super bonne chum, elle et moi. C'est ça, on avait fait une collection avec ce concept-là de mettre le tatouage sur le hood de hoodies. Puis ça avait été refusé par Raitman's, par Simon's, puis par Target Canada. Fait qu'on avait laissé ça de côté un peu en se disant, bon, ben, ça n'a pas marché, là. Puis j'étais bien triste de ça, remarque, mais un autre échec, tu sais, qu'on parle pas. On parle juste du fait que 2, 3, 4 ans plus tard, je rencontre Pascal Labelle, puis je la fais, la ligne de hoodies, avec ce concept-là, avec lui.
Il y a vraiment des super bonnes idées originales. On peut voir ça depuis le début de ta carrière publique.
Ah oui, merci, mon Dieu.
Mais je trouve.
Merci beaucoup.
Je t'ai entendu dire en entrevue que tout le monde devrait prendre le temps d'écrire son parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire le tien?
Ben, c'était un ami qui me représentait en tant que conférencière. Il me dit après une de mes conférences, écoute, tu devrais écrire un livre sur ta conférence. Finalement, moi, j'avais toujours pensé de faire une autobiographie. Ça, je me suis dit, ben, je vais peut-être marier les deux, parler un peu de ça, Puis je voulais aussi parler de mon échec contre l'alcool en me disant ben peut-être qu'il y a des alcooliques dans ce monde qui, comme moi, savent pas qu'il y a un problème d'alcool ou qui n'ont pas le courage de rentrer dans les salles. Ou c'est peut-être que ce partage-là va inspirer des gens à aller demander de l'aide.
Est-ce que tu as trouvé l'exercice difficile? Qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire?
C'était difficile au début parce que je n'étais pas habituée. Moi, j'étais habituée à « Sois belle et tais-toi ». Mais c'était plus difficile, j'imagine, pour mon éditrice qui devait me dire à toutes les cinq minutes, elle aborde là-dessus. T'sais, moi, je parlais, je pelletais des nuages, là. Je parlais de rien. Là. Quand tu commences un livre avec une maison d'édition, surtout pour moi, que c'était mon premier bouquet, écoute, j'ai pas d'expérience, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais moi, ils m'ont dit « Tu vas aller avec une éditrice, puis vous allez écrire ensemble dans le sens qu'elle va corriger, mais elle va aussi te guider pour savoir où tu vas aller, vu que j'ai jamais écrit de livre. C'est sûr que je me suis aperçue que j'écris pas pire, quand même.
Oui, t'as fait un très bon travail.
Merci beaucoup. C'est pas elle qui a écrit les choses, elle m'a juste guidée. Puis même aujourd'hui, je la remercie à tous les cinq minutes, mais elle dit, Ève, j'ai juste guidé. Moi, je t'ai dit, continue là-dessus, puis développe un peu plus. Mais au début, c'était ça, c'était quasiment une joke, là. Puis j'y envoyais même des emails, je disais, bon, ben, voici un document Word de, je sais pas, moi, 2000 mots, mais là-dedans, je voudrais enlever telle, telle affaire. Puis elle m'avait dit, en fait, on enlève tout, puis le telle, telle affaire, on le garde, puis telle barre là-dessus.
Ben, c'est bon.
Oui, c'est merveilleux. Puis tu deviens vraiment proche de cette personne-là parce qu'elle connaît tout, là. Ben, c'était le fun. Je pense qu'on s'est bien entendu, elle et moi, puis on a fait une pas pire job ensemble. Mais c'est ça, une fois que j'ai pogné la twist de savoir, OK, bon, ben, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est comme ça qu'il faut que je parle. Tu comprends?
Oui. Est-ce que ça a été long, le processus?
Non? Non, ben, je veux dire, je travaillais beaucoup. C'était le fun. On était confinés. Fait que j'avais rien d'autre à faire.
Ouais.
Je vais pas dire, aujourd'hui, je vais aller prendre un café avec ma chum. Et puis là, t'arrives, tu prends un café, il fait beau dehors, on va te prendre une marche, il faudrait que je marche le chien. Finalement, t'as rien foutu de la journée, là.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, j'avais aucune autre raison de ne pas écrire. C'est un bel exercice d'introspection parce que c'est des choses qui, comme je dis tantôt, souvent, on regarde la montagne qui est devant nous, mais on regarde pas les montagnes derrière qu'on a montées puis descendues. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant de voir, hey, j'en ai fait des affaires quand même, là. Je m'en suis pas rendu compte, puis je sais que je suis pas la seule. C'est sûr que ça sonne super beau, que j'ai fait un saut de Versace, mais c'est pas plus... En tout cas, dans ma tête, à moi, c'est pas plus grand que d'avoir un enfant, puis de dealer avec la mort d'un proche, ou de... Tu sais, je veux dire, il y a tout est aussi gros que...
Chacun a son parcours.
Exactement. On a tendance à regarder d'où on vient. C'est ce que les programmes des 12 étapes nous apportent, de se rappeler d'où on vient. C'est pour ça qu'on dit 24 heures à la fois. C'est pour ça qu'on vient en aide aux alcooliques qui souffrent encore. C'est pour ça qu'on a des fioles. Ah, parce que ça, ça me rappelle d'où je viens. Moi, quand je parle de ça dans le livre, de comment j'ai amené mon impuissance devant l'alcool, ça me rappelle d'où je viens, parce que je veux jamais l'oublier, ça.
Ton livre va aussi être disponible en audio, avec ta voix en plus. Comment t'as trouvé ça de relire ton histoire à voix haute?
J'ai adoré, mais je suis nulle. Ben, on m'a dit de pas dire ça, que je serais pas pire quand même, puis blablabla. Bla, bla. Mais moi, je me suis trouvée pas bonne, là.
Mais c'est jamais évident de s'entendre non plus.
Ouais, c'est ça.
Mais est-ce qu'il est disponible déjà?
Non, il nous reste. Ils m'ont écrit hier pour me dire que j'ai 12 corrections à apporter. Okay. Donc, je finis ça demain matin. Je fais mes 12 corrections en question. Puis après ça, ça devrait être très, très bientôt, là.
OK. Est-ce qu'il y a une possibilité que ton livre soit traduit en plusieurs langues?
C'est pas dans mon contrôle, ça. J'aimerais ça que ça soit dans mon contrôle, mais ça ne l'est pas. Donc.
Ça dépend-tu de combien tu vas en vendre?
Non, c'est ça, je pensais. Puis non. En fait, c'est comme des agents qui m'ont expliqué. Moi, j'ai été avec l'édition de l'homme parce qu'ils sont très forts en France.
Okay.
Ils ont une édition de l'homme en France. Comme le livre était écrit avec Jean-Paul Gaultier en préface, puis comme c'est mon histoire et se passe beaucoup en France, je me suis dit, j'aimerais ça le sortir là-bas en même temps qu'au Québec. Donc, c'était poussé pour être en français seulement. Mais pour qu'il soit en anglais, puis là, tous mes amis des États-Unis sont bien fâchés parce qu'ils ne peuvent pas lire mon livre. Pour qu'il puisse être traduit, il faut que un agent décide de... En tout cas, j'ai pas très bien compris, là, mais c'est une affaire de... C'est un agent qui achète le livre puis qui le fait traduire dans sa propre maison d'édition aux États-Unis ou à Londres.
OK. Vu que tu as fait le tour du monde puis que tu dois avoir des amis un peu partout ou que tu as été connu aussi dans beaucoup de grandes villes, ça serait super intéressant. En tout cas, je te le souhaite qu'il soit traduit à un moment donné. Là.
Ben, j'aimerais ça. Écoute, je capoterais bien raide. C'est le fun parce que quand tu écris un livre, c'est une autre affaire que je savais pas. On m'a demandé au tout début, avant même que j'écrive une première phrase, phrase. Qu'est-ce que tu veux dire dans ton livre? C'est quoi le but d'écrire ce livre-là? Une fois que tu as trouvé ton but, mais tout le reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Combien je vends? Y a-tu des traduits? C'est le fun parce que ça a descendu toutes mes attentes. Donc, quand j'ai vu qu'il se vendait bien puis qu'il y avait un impact sur les gens puis que les gens aimaient le livre, ben, j'étais aux anges, là. C'est vraiment un bel honneur. C'est vraiment touché par ça.
Comme on a pu le constater, tu as fait plusieurs métiers depuis que tu as été top modèle pour les plus grands couturiers. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais petite, ce que tu répondais quand on te demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande?
Oui, oui, oui. J'ai répondu toujours que j'allais dessiner les covers des vinyles. C'était définitif, c'était ça que j'allais faire quand j'allais être grande. Donc, j'avais aucun doute là-dessus.
Donc, c'était le dessin déjà?
Oui, c'était certain, sûr et certain. Là.
Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Puis, est-ce que tu as une page ou un site web où les gens peuvent s'informer sur ce qui s'en vient?
Oui, j'ai un site web, salvaille.com. Sinon, les Facebook, Instagram, commercial à Salvaille.
C'est pas quelque chose que tu tripes tant que ça, hein, les réseaux sociaux puis tout
j'ai ça. J'ai
ça
pour mourir.
Mais est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent ou t'attends que la pandémie passe?
Oui. Puis... non, j'ai mille autres projets. Écoute, il y en a tellement, je suis tellement dans la gratitude d'avoir justement mille et un autres projets qui n'ont pas été détruits par la pandémie puis qui sont vraiment remis à plus tard. Mais c'est très slow, là. Tout est au vraiment super ralenti à cause de la pandémie, mais il n'y a aucun de mes projets qui est mort à date. Je suis du bois.
Est-ce que tu pensais écrire un autre livre à un moment donné?
Ben, peut-être, oui.
J'ai remarqué aussi que ça te touche beaucoup quand tu constates que tu as aidé des gens en étant seulement toi-même.
Ben, c'est sûr. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je ne me vois pas comme... D'un, c'est pas mon intention, mais de deux, je me vois plus comme une petite fille de ma tante que quelqu'un qui peut aider quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment le rêve ultime, là. C'est extraordinaire. Quel beau cadeau de la vie.
Je suis persuadée que la lecture de ton livre va en aider plusieurs autres. Ton livre est très inspirant et captivant, comme je te disais, puis ton parcours est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Eve Salvaille, pour cette entrevue. Continue d'être toi, t'es belle.
Merci, ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir demandé.
Ça a été un grand plaisir. Merci. Bye bye.
Bye.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission en rediffusion. J'ai adoré faire cette entrevue avec Eve Salvaille après avoir lu son livre d'un seul trait lors de sa sortie. Si vous n'avez pas encore lu ce livre captivant, « Sois toi et t'es belle » est aussi disponible en version audio sur audible.ca. On se laisse avec Zaz et Elton John et on se retrouve le lundi 19 février à 19h. Bonne fin de soirée.
J'en suis là et j'en suis fière. Sans fort féroce comme une mère. Je chante, je chute, j'avance, j'accélère. Et si c'était à refaire. Sans fort féroce comme une mère. Je suivrai mes traces dans la poussière. J'ai pas tout chanté, j'ai pas tout pleuré. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout vaincu. Pas de leçon à donner, juste mon histoire à raconter. J'ai pas tout appris, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout retenu. Pas de leçon à donner, juste mon histoire à raconter. J'en suis là et j'en suis fière. J'avance, j'accélère. Et si c'était à refaire. Sans fort féroce comme une mère. Je suivrai mes traces dans la poussière. J'ai pas tout prévu, j'ai pas tout voulu. J'ai pas tout prouvé, j'ai pas tout mérité. Pas de leçon à donner, juste mon histoire à raconter. J'ai pas tout cru, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout entendu. Pas de leçon à donner, juste mon histoire à raconter. J'en suis là et j'en suis fière. Sans fort féroce comme une mère. Je chante, je chute, j'avance, j'accélère. suis là et j'en suis fière. Sans part féroce comme une mère. Je change, je chute, j'avance, j'accélère.
It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong. Cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better.
Gilles Vignon, vous écoutez la radio communautaire CQUT à ses 90.3 FM. Oui.
It is 3 p.m. on a wonderful Tuesday, where we'll be listening to some tracks submitted by CKUT volunteers. To start, we'll be listening to some tracks submitted by Karina, the host of Modular Systems, that airs on Sundays from 1 to 2 p.m.